touche pas mon schiste. Thierry Gauthier.
Paul Renard.
Nous sommes contre l'exploitation aveugle des gaz de schiste du Québec. Le simple petit risque de polluer notre eau, de polluer notre air, de polluer nos terres est un risque inacceptable. Le gouvernement devra écouter les Québécois qui veulent prendre le temps d'une décision éclairée. Toute leur improvisation est une insulte. Contrairement à leur projet, cette rencontre sera éphémère. Le temps que les charbonniers de l'enfer, galant tu perds ton temps et le vent du nord, vous chantent l'histoire du diable et du fermier.
C'est l'histoire d'un diable, sortant tout droit des flammes, promettant au fermier de lui laisser son âme.
Promettant au fermier de lui laisser son âme.
S'il partage ensemble les fruits de la moisson, à chacun sa moitié. C'est une obligation.
À chacun sa moitié. C'est une obligation.
Bonsoir Paul.
Bonsoir Thierry.
Nous revoilà donc pour une nouvelle émission Touche pas à mon schiste, en collaboration avec le collectif Touche pas à mon schiste. Alors là, on a encore une petite illustration du combat contre les gaz de schiste de façon internationale, puisqu'on parle de Canadiens là.
Voilà, des Canadiens qui ont mis au goût du jour un compte canadien. Voilà.
Voilà, alors aujourd'hui l'actualité est très chargée, hein. On a pas mal de points, comme la semaine dernière, comme il y a 15 jours, hein, je crois que ça
oui.
y est,
oui, c'est toujours,
il y a toujours des choses très importantes et le combat n'est pas fini. Alors on parle entre autres, vous savez qu'on est en pleine élection présidentielle, on le voit de plus en plus sur les écrans et dans les journaux. Alors là justement, c'est le moment pour le combat contre le gaz de schiste de s'adresser même aux candidats.
Voilà, alors on vous l'avait dit la dernière fois, donc pendant la coordination nationale, donc qui a lieu le 14 et le 15 janvier, la coordination nationale avait mis au point une lettre, un questionnement donc aux candidats, qui est destiné aux candidats les présidentielles, mais qui sera ensuite destiné aux candidats des législatives. Quoi. Donc je ne vais pas vous lire la totalité de la lettre, mais en fait les principales questions, quoi, c'est un, êtes-vous prêt, vous engagez-vous à annuler, abroger, retirer tous les permis exclusifs de recherche accordés en France, à interdire définitivement l'exploration et l'exploitation de tous les hydrocarbures qui requièrent le recours de la simulation et même expérimentale de la roche.
Le but, c'est vraiment que les politiques clarifient leur position, parce que finalement, c'est ça qu'on demande depuis très très longtemps.
Voilà, quoi. Donc on a des questions très claires, très simples, primaires, à laquelle il va falloir qu'ils répondent par oui ou par non. Quoi. Donc on va, dès qu'on aura les réponses, on va les publier, les médiatiser et donner le plus grand retentissement.
Parce que finalement, on a l'impression effectivement que la loi qui a été faite, les amendements, n'ont toujours pas clarifié la situation, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de possibilités finalement de passer à travers la supposée interdiction.
Voilà, cette loi a été faite pour être contournée, quoi, en fait.
Voilà.
En interdisant la fracturation hydraulique sans la définir et en l'autorisant pour à titre expérimental, ça permettait de le faire. Quoi.
Et en rappelant que c'est un mouvement qui est très transversal, donc du coup, qui est politiquement très sensible pour les candidats, parce que
pour l'ensemble des candidats,
c'est pas des chasseurs. Enfin bon,
voilà,
c'est
oui.
pas aussi clivé non. que certains groupes. D'opposition, voilà. D'opposition, on va dire,
C'est une opposition
de pression, même.
Assez large et
assez large,
transversale, comme
voilà,
vous le disiez.
Voilà. Alors, on va revenir également sur, vous savez que, on sait que la loi n'a résolu très très peu de choses, puisque il y a toujours des permis qui étaient en cours d'instruction, et bien cette fois-ci, on a des permis accordés, de nouveau.
Voilà, il y a 12 permis accordés, en fait des permis sur lesquels qui sont d'après les foreurs des permis de
recherche,
du forage traditionnel.
Ah, traditionnel, c'est ça, ouais. Voilà,
conventionnel.
Mm-hmm.
Mais avec de gros doutes, certains sur des huiles lourdes, certains avec pour un forage conventionnel, mais avec en dessous des couches de schiste, en fait bon, donc tout ça est.
Et souvent en plus on découvre que ces forages sont sur des zones qui n'ont jamais été prospectées brutalement. On les prospecte.
Voilà, oui. Ouais, enfin, là, il y en a 10 qui sont en région parisienne, qui est une région qui est assez connue. Il y en a un en Aquitaine et un en Lorraine. Et en fait, mais c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, c'est en fait le retrait de tous les permis et une remise à plat du code minier, et ensuite on réétudiera le permis, on verra ce qui est possible ou pas, quoi.
Parce que ça, c'est traité un peu au coup par coup, semble-t-il. Certains permis ont été abrogés, d'autres sont accordés. C'est vrai qu'on arrive sur un flou très très surprenant, quoi. On parlait des produits, des permis justement sur l'Ardèche, hein, oui. Les fameux permis qui ont été abrogés, sur lesquels il y a des recours.
Voilà, mais les permis abrogés, bon, ils ont été abrogés dans les zones où il y avait les plus grosses manifestations et la plus grosse réaction des populations. Il y en a deux qui ont été abrogés, c'est ceux détenus par Schumbach et celui de Villeneuve-de-Berg et celui de Nantes. Schumbach, le propriétaire des permis, disait « Moi, je ne connais pas d'autre méthode que la fracturation hydraulique, je ferai de la fracturation hydraulique. » Donc lui, il s'est mis
hors la loi,
donc, mais Total, qui n'avait pas dit ça, qui avait dit qu'il resterait fidèle à la loi, a eu son permis abrogé et du coup a déposé un recours qui va être validé par le tribunal administratif, quoi. En fait, Total va avoir son permis dans les 2, 3, 4 mois qui viennent, quoi.
Juste après les élections.
Voilà.
Alors, certains permis sont réattribués, ou pour l'instant d'autres sont attribués pour la première fois. On a aussi des industriels, semble-t-il, qui se désistent. Alors, pour quelles raisons
il y a des choix économiques. Il y a aussi des pétroliers qui disent, nous, on a deux gros permis en Inde, en Afrique du Sud, en Pologne, etc. On a un petit permis ici en France, avec une grosse opposition populaire. Oui. On va pas venir s'embêter à la forêt ici. Il y a certainement de ça. Il y a certainement de ça. Donc, il y a 7 désistements. Il y en a un qu'on connaissait, c'était celui du permis de Provence, qui est donc juste en dessus de Marseille, qui prend une partie du Luberon, à côté du permis de Brignoles. Les autres sont tous principalement en région parisienne, quoi. Donc, aujourd'hui, on en est à 3 permis abrogés, donc 7 désistements, un recours, le recours total qui devrait obtenir son permis. On a 61 permis accordés et 65 à l'instruction.
D'accord. Voilà. Pour préciser une chose, ces industriels qui se désistent, d'autres ne les remplacent pas sur le même permis. C'est-à-dire que quand un industriel se désiste, son permis automatiquement est abrogé.
Voilà. Cette demande-là n'est
pas étudiée.
Ceux qui se désistent.
Il pourrait y avoir un nouveau permis sur la même zone avec un nouvel industriel.
Oui, parce que ceux qui se désistent, ils ont un dossier qui est actuellement en cours d'instruction et à un moment, ils disent, je retire ce dossier.
Voilà.
Donc, l'instruction s'arrête.
Oui, c'est un désistement sur une demande d'attribution.
Sur une demande d'attribution.
Qu'on soit bien précis.
Voilà, tout à fait. C'est pas un permis déjà accordé. Donc, à partir de là, n'importe qui d'autre peut reprendre. De la même manière que sur certains permis, comme par exemple pour le permis de Valence, il y a sur le même périmètre, 2 demandes à l'instruction de 2 pétroliers différents. Quoi. Donc il y en a un qui, a priori, pour l'instant, serait jugé non recevable, et l'autre serait acquis. Il y a la même chose du côté de Lyon. Il y a le permis de Blaye et le permis de Lyon-Annecy qui se chevauchent. Quoi.
Donc voilà, il n'y a pas de sens, finalement, on ne peut pas se réjouir spécialement si un jury se désiste, parce qu'un autre peut le remplacer. Tout à fait.
Exactement.
Voilà. Alors revenons plus localement maintenant sur Rhône-Alpes, hein, parce qu'on peut faire un état des lieux de la région Rhône-Alpes avec le gouvernement qui semble faire pression un peu, ce qu'on appelle le DRAL. Alors qu'est-ce que le DRAL ?
La DREAL. C'est la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement. La DREAL, c'est l'organisme qui est chargé localement d'étudier toutes les demandes de permis de son territoire. Donc la DREAL Rhône-Alpes a reçu un appel du ministère le 23 janvier.
C'est en industrie, j'imagine. Voilà.
Lui demandant de relancer l'instruction des permis, laquelle avait été mise en demeure, à cause de la mobilisation. Quoi. Ça, on l'a appris à cette occasion-là, quoi, en fait.
Donc on a c'est-à-dire que rien n'est vraiment acquis à chaque fois. C'est ça qui est fou, c'est que la mobilisation, on a l'impression, beaucoup de gens pensaient que la solution était réglée, mais pas du tout. Tout ça c'est en veille, et puis dès que ça se calme, repart.
Voilà, et puis là il y a les élections, donc on se dit que les gens vont avoir d'autres soucis, choisir leur président, ça va pas être une mince affaire avec ce qu'on nous propose.
Garder leur emploi aussi.
Payer leur maison, payer leur crédit.
Voilà,
Donc, voilà. On se dit que c'est peut-être le moment de remettre ça, quoi.
C'est peut-être qu'on se trompe aussi, peut-être.
On se trompe peut-être aussi. Mais alors, donc là, en fait, la DREL, avec cette relance de l'État, on a eu quelques informations. Donc, je vous parlais tout à l'heure du permis de Valence et de Montfalcon, quoi, qui sont deux permis qui se chevauchent. En fait, deux demandes différentes pour le même périmètre. Donc, un permis qui part du sud de Valence et qui va jusqu'à la hauteur de Grenoble, à peu près.
D'accord.
Donc le permis de Montfalcon donc a été dit complet et recevable, alors que le permis de Valence, la DREAL a conclu à un avis défavorable. Donc sur ce périmètre-là, c'est le pétrolier qui a le permis de Montfalcon qui va avoir le permis.
Mais la DREAL donne un avis qui n'est pas
Et ensuite c'est le ministère qui tranche. Mais le ministère va trancher bien souvent, enfin 99 fois sur 100, en fonction de l'avis de la DREAL.
Oui, ce sont des fonctionnaires d'État, la DREAL, j'imagine. Oui, voilà.
Complètement.
On s'est intéressé également au permis de GEX. Donc là, on se rapproche de la Suisse. C'est un permis extraordinaire parce que c'est un permis frontalier.
Voilà,
et qui est sur une zone. Alors là, on tombe des nues. Sous cette zone, il y a le fameux anneau du CERN.
Oui, l'accélérateur de particules du CERN.
On est carrément dessus.
Donc ce permis, il englobe la pointe du lac Léman, en fait. La pointe de la Suisse qui pénètre en France. Ce permis, d'abord, alors les Suisses sont très très fâchés, quoi. Les politiques suisses, en fait, les parlementaires suisses
sont très fâchés. Parce que les prospections sismiques et puis l'hydrofracturation ignorent les frontières, bien sûr.
Exactement, oui. Ouais. En plus, donc ce permis se trouve sur...
Pas comme nucléaire.
Voilà. Ce permis se trouve en partie sur le bassin versant du Rhône et du lac Léman, c'est-à-dire que dont dépend l'alimentation en eau de Genève, par exemple. Ouais, et Genève, les politiques suisses sont très fâchés parce qu'ils n'ont même pas été consultés par le gouvernement français en donnant ce permis. Donc il y a une mobilisation très très forte, le collectif 74 qui s'est monté il y a très peu de temps, a pris vraiment beaucoup d'ampleur.
Et qui va être soutenu par les Suisses,
Par les Suisses, soutenu par les politiques suisses.
Ouais,
je crois que ça va faire du bruit.
Mais les pétroliers pensent qu'ils vont accélérer les particules en donnant des coups de butoir, c'est assez impressionnant.
Peut-être, vous savez qu'on est en train de chercher le boson de Higgs dans l'accélérateur de particules, peut-être qu'avec l'aide de la fracturation, ça va peut-être aider à aller plus vite et
en
à trouver.
En plus, les Suisses ont une mauvaise expérience de l'hydrofracturation, puisque pour de la géothermie, ils ont un souci sous Lausanne.
Sous Lausanne.
Voilà, ils ont arrêté tout.
Voilà. Ouais. Ouais. Et en plus il y aurait eu un essai de fracturation sous le lac Léman, donc à partir de ce permis de GEX il y a un an ou deux. Alors ça, c'est, je vous dis ça au conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves. Mais donc ce permis est un permis qui est attribué, le permis de GEX, et les travaux pourraient commencer d'un moment à l'autre.
C'est vraiment dans l'urgence.
Dans le même coin, en fait. Donc ça, c'est en Haute-Savoie. À la frontière de la Haute-Savoie et de l'Ain, il y a le permis de Moussière qui est le tour de la commune de Bourg-en-Bresse. Il y a le permis de Lonsonnier qui aussi lui donne sur l'Ain. Et donc on a toujours nos deux permis, donc Navacelles et Plaine d'Alès, quoi, qui sont au sud de l'Ardèche. Ça, c'est les permis Rhône-Alpes qui sont accordés, quoi, en fait.
D'accord. Quittons un peu Rhône-Alpes et allons vers la mer. Alors là, on avait oublié un peu vite, c'est qu'il n'y a pas que des permis terrestres, il y a aussi des permis offshore. Et ces permis offshore, finalement, qui existent depuis un petit moment, on voit que c'est très avancé, puisque finalement, je crois que le sismique a été réalisé déjà.
Voilà, donc c'est la compagnie écossaise Merlos Ressources qui prospecte donc en Méditerranée depuis plusieurs années. Elle a obtenu son permis en 2002 sur une zone qui fait un peu plus de 10 000 km², donc ce qui est pas mal, qui est située à 25 km de Toulon, à 30 km de Marseille, juste entre la Corse et l'Espagne, à mi-chemin entre la Corse et l'Espagne. Donc cette compagnie qui a déjà procédé à des études sismiques, à terme compte construire une plateforme et pomper du pétrole à plus de 2000 mètres de profondeur. Sachant que elle a déposé son permis pour du pétrole, mais qu'il y a aussi du gaz ou du pétrole de schiste, et que à terme elle compte bien.
On est toujours dans le mélange des gisements. C'est que pour faire un gisement de schiste qui semble-t-il est beaucoup moins populaire, ben on met devant un gisement éventuel de pétrole. Voilà. Et puis on fait du schiste en même temps, quoi.
Donc alors ce permis qui a été délivré en 2002, il arrive à expiration et l'État doit donc renouveler cette autorisation. Et la date butoir est le 18 février pour le renouvellement. Donc une association des élus riverains donc de la Méditerranée s'est constituée avec le collectif Stop au gaz de schiste du Var, et ils interpellent donc Madame Kosciusko-Morizet et Monsieur Besson pour qu'ils ne signent pas ce renouvellement. S'ils le signaient, ils annoncent donc une mobilisation jamais connue, quoi, en fait, et
non pas sur terre mais sur mer cette fois-ci.
Une mobilisation sur mer. Alors il faudrait du week-end de Pâques. C'est leur mot. Le Trafalgar du gaz de schiste. Donc ça promet.
Si Nicolas Sarkozy a un Trafalgar, c'est sûr qu'il est mal barré.
Et donc l'ensemble des plaisanciers, des pêcheurs, de tous les gens qui auraient un bateau sont conviés à emmener tout le monde en bateau sur zone.
Ça c'est prévu le 7 et 8 avril, c'est
le
ça
7 et 8 avril, voilà.
D'accord.
Et il y aura aussi sur les ports donc de Toulon et de Marseille de grandes manifestations, en fait, voilà. C'est vraiment en train de prendre une ampleur assez importante.
On est quand même toujours surpris par le calendrier de ces permis. Les élections arrivent, maintenant il y a
mais peut-être qu'il faut les faire passer vite avant qu'on se fasse...
Oui, peut-être aussi.
Avant qu'on parte.
Non, mais c'est assez étonnant. Ouais. C'est assez étonnant parce qu'il y a un très gros risque politique aussi pour tous les politiques qui sont en charge du dossier. Je pense au niveau de l'industrie, de l'écologie, et puis bien sûr à la tête de l'État aussi.
Oui, après, parmi les candidats, à part des candidats qui ne peuvent pas prétendre à être élus, il n'y en a pas beaucoup qui sont contre le gaz de schiste.
Oui, même socialiste.
On va attendre leur réponse.
On peut aussi parler de cette commission nationale d'orientation là qui a été créée, et il serait intéressant de s'intéresser à sa composition qui, semble-t-il, n'est pas tout à fait équilibrée entre les pros, il y a toujours des pros, mais entre les pours et les pros du gaz de schiste. En fait, il n'y a que des pours et des pros. Il n'y a pas de contre. Voilà.
Si, il y a quelques contre, mais pas majoritaire. C'est la loi du 13 juillet, en fait, qui avait instauré donc la mise en place d'une commission nationale d'orientation et de suivi et d'évaluation des techniques d'exploitation et d'exploration des hydrocarbures liquides et gazeux. Donc, cette commission devra donner son avis donc sur tous les projets de texte réglementaire qui viseront à maîtriser les risques et à protéger l'environnement lors de l'expérimentation de nouvelles techniques. Et en fait, on a maintenant la composition de cette commission. Dans cette commission, il y aurait donc 5 représentants de l'État, 4 parlementaires, 3 représentants des collectivités locales, 3 associatifs et 3 membres des lobbies pétroliers et gaziers, et 3 personnes qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière d'expertise scientifique. Donc en fait, suivant qui on va choisir, on s'aperçoit que plus des 2/3 de la commission pourraient être pour le gaz de schiste, quoi. Donc
on imagine bien effectivement les débats ou la tranche des débats. Voilà, tout à fait. C'est intéressant aussi donc sur le sujet du gaz de schiste et des techniques. On a 2 sujets qu'on pourrait traiter maintenant. Il y a à la fois le superfracking dont on va parler, mais il y a aussi un projet assez surprenant, qui est le projet Gold. Alors on revient en Méditerranée de nouveau, qui sont des forages extrêmement profonds à plus de 10 km sous mer.
Voilà.
Sous mer, sur la surface de la mer.
Ouais.
Et alors là, qu'est-ce qu'on va chercher aussi profond?
Alors, le projet Gold, enfin Gold, c'est Gulf of Lions.
C'est pas de l'or, hein.
C'est le forage dans le golfe du Lion. C'est moins bon en français comme ça. Gold, ça claque bien, quoi. Donc c'est un consortium qui s'est formé, qui cherche un budget de 100 à 150 millions d'euros, et pour effectuer un forage qui serait à 200 km des côtes, sous 2400 mètres d'eau et traversant 7 km et demi de sédiments, c'est-à-dire à 10 km
de profondeur par avant la surface de l'eau, tout à fait.
Donc le but de ce forage, donc qui nécessite un navire spécial, il y a un seul navire au monde qui est un navire japonais qui viendrait pour faire ce forage. Donc le but de ce forage, c'est de percer la couche de sel d'un kilomètre d'épaisseur qui se trouve en dessous donc de la roche mère, en dessous de des roches qui nous intéressent dans lesquelles il y a le gaz de schiste.
Mais là, on parle d'une projection conventionnelle puisqu'on cherche du pétrole là plutôt.
Alors là, pour l'instant, le but en fait de ce forage, c'est théoriquement pour mieux étudier les 23 D'accord. millions d'années qui nous séparent de cette couche et pour essayer de voir comment tout ça fonctionne et avoir un peu des renseignements sur les origines de la Terre. Mais alors les scientifiques veulent en même temps vérifier s'il serait possible de stocker du CO2 sous cette couche de sel parce qu'elle est parfaitement étanche. Mais les pétroliers, eux, ils salivent, ils se frottent les mains. Parce que on en a parlé il y a un mois je crois, on a trouvé donc au large du Brésil sous cette couche de sel ce qu'on peut qualifier des océans de pétrole quasiment.
D'accord, des nappes voilà, gigantesques.
Des nappes gigantesques.
Mais d'un pétrole à maturation ou d'un pétrole.
D'un pétrole à maturation qui est très ancien, très pur. Enfin vraiment, ça serait l'Eldorado quoi.
Extrêmement profond quand même.
Mais à 10 km de profondeur. Quand on sait qu'à 2000 mètres de profondeur, on voit ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique, à 10 km de profondeur, la maîtrise.
On maîtrise plus. C'est-à-dire que pour le coup, on serait capable de transformer notre océan en océan de pétrole.
Oui, c'est ça. Et donc l'industrie pétrolière, elle se dit qu'elle va laisser ce programme se dérouler et puis en profiter derrière. Donc ça voudrait dire des plateformes dans le golfe du Lion. On imagine les élus qui sont tous élus de communes touristiques, ça va pas vraiment les enchanter.
Non, parce que c'est vrai que les accidents, on a vu, du Mexique, ça a duré extrêmement longtemps avant qu'on trouve une solution.
Et en plus, le golfe du Mexique, c'est dans l'océan Atlantique. Là, on est dans une mer fermée, petite et fermée. Donc un accident équivalent à celui du golfe du Mexique, ça serait catastrophique pour l'ensemble de la Méditerranée.
Sinon, les pétroliers sont partout. Alors, on avait le fracking, qu'on a appris à connaître, qui est la fracturation hydraulique avec des produits en tout genre. Maintenant, on a le super fracking. Alors, c'est quoi le super fracking?
Ils ont trouvé quelque chose de mieux
que le fracking.
Ils sont forts dans la pub. Vous avez aimé le fracking? Vous allez adorer le super fracking. Donc, Halliburton, Schlumberger et Baker Hughes, qui sont les leaders donc du système de la fracturation hydraulique, donc proposent maintenant la super fracturation hydraulique, donc super fracking, qui est une méthode d'explosion. Ils explosent plus profondément la roche pour créer des canaux plus larges. Ils nous promettent que cette méthode va leur permettre de faire des économies de l'ordre de 70% par forage et des forages beaucoup plus rapides. C'est-à-dire qu'ils auront, c'est ce qu'ils nous disent, quoi. Ils auront la possibilité de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de puits dans le même temps et de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bénéfices.
Et de dégâts.
Et de dégâts, évidemment.
C'est fou, ça. Voilà. On va se quitter en finissant sur les rendez-vous à venir, qui sont nombreux au mois de février. Alors, on a le premier rendez-vous, bien sûr, on a parlé du canton de Gex.
Donc, c'est samedi 11 février à Saint-Julien-en-Genevois, à partir de 9h30. Rendez-vous à 9h30. Un grand cortège à 13h30. Tout ça organisé par le collectif Non Gaz de Schiste 74. On peut trouver ça sur leur site, Non Gaz de Schiste 74, on trouve ça très bien.
Et puis le 26 février, c'est l'anniversaire de ce grand rassemblement qui avait été le grand élan populaire de la mobilisation à Gevilliers-Neuf-de-Berg. C'est en Ardèche, vous vous rappelez, on avait plus de 15 000 personnes.
Voilà,
ça avait surpris un peu tout le monde.
Plus de 15 000 personnes en Ardèche, c'est aussi le jour où avait été créée la coordination nationale. Mm-hmm. Donc pour fêter cet anniversaire, ce premier anniversaire, dimanche 26 février, donc un grand rassemblement à Gevilliers-Neuf-de-Berg qui est en cours d'élaboration, donc on vous en dira plus dans 15 jours.
Alors, du 14 au 17 février à Marseille, il y a le FAME qui est...
Alors, le FAME, c'est le Forum Alternatif Mondial de l'Eau. Mm-hmm. Donc, comme l'eau...
C'est au cœur du problème.
C'est au cœur de notre problème. Donc, on va la journée du 17, donc la journée de clôture de ce forum, on va être présent, l'ensemble des collectifs va être présent et va essayer de faire un gros route.
Et puis, on rappellera, bien sûr, le 7 et 8 avril, le Trafalgar du...
Voilà.
Du schiste en mer méditerranéen.
Plus d'informations dans nos prochaines émissions.
Pour les prochaines émissions. Merci Paul.
Merci Thierry.
Dans 15 jours.
À dans 15
merci
jours.
À tous.
C'est l'histoire d'un diable sortant tout droit des flammes, promettant au fermier de lui laisser son âme.
Promettant au fermier de lui laisser son âme.
S'il partagea ensemble les fruits de la moisson, à chacun sa moitié, c'est une obligation.
À chacun sa moitié, c'est une obligation.
Le diable choisit, pour que l'entente soit bonne, de garder ce qu'il reste sur la terre à l'automne.
De garder ce qu'il reste sur la terre à l'automne.
Le fermier accepta et planta des fenêtres, des patates, des carottes, véritable navet.
Des patates, des carottes, véritable navet. Oh, oh, oh.
Qui céderait pour un rien? Richesse de ces terres,
oh, oh, oh.
Du diable ou de l'homme,
oh, oh, oh.
À qui la bonne affaire?
Quand arrive le temps d'échanger le butin, le diable en maudit ne lui reste plus rien.
Le diable en maudit ne lui reste plus rien.
Dis alors au fermier, pour changer l'an prochain, prenez donc à votre tour ce qui pousse sur le terrain.
Prenez donc à votre tour ce qui pousse sur le terrain.
Le fermier accepta et planta cette fois des tomates, des courgettes, des melons et des bois.
Des tomates, des courgettes, des melons et des bois.
Le diable au récolte, drapoyant le néant, retourna vers Satan, le fermier triomphant.
Retourna vers Satan, le fermier triomphant.
Qui jouerait son avenir,
oh, oh, oh.
Sans connaître le marché,
oh, oh, oh.
Qui voudrait fractionner,
oh, oh, oh.
La terre de sous ses pieds.
Le diable revint, respectant sa parole, de l'eau du gaz du fer. Il viderait le sol.
Le loup du gaz du fer, il viderait le sol.
Alors à la surface, qu'allait-il bien pousser? L'eau souillerait les fuites de gaz empoisonné.
L'eau souillerait les fuites de gaz empoisonné.
Les ressources dépouillées, il s'était enrichi, laissant que du béton, le diable reparti.
Laissant que du béton, le diable reparti.
La terre fragilisée, comme ce Québécois condamné à bouillir, l'eau que son enfant boit.
Condamné à bouillir, l'eau que son enfant boit.
L'histoire, qui donc aura perdu ses précieuses énergies.